Salut les auditrices et les auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Transition et aujourd'hui on va parler un petit peu des coulisses de Nakan.ch pour un nouvel épisode d'Inside et dans cet épisode on va parler du déroulement d'un test de montre cardio GPS ou d'un autre appareil que je peux tester sur le site, un petit peu comment ça se passe, comment j'appréhende un petit peu les choses, comment je les décompose pour arriver à un test de fond en comble sur Nakan.ch depuis maintenant un peu plus de 13 ans que je fais des tests sur le site. J'ai pris quelques routines et quelques habitudes, mais bien évidemment qu'il faut toujours avoir la même curiosité et un petit peu la même envie de découvrir les nouveautés et puis les choses qu'on connaît pas encore très bien sur des nouveaux appareils, et je vous explique tout ça dans ce podcast. Si vous aimez les podcasts et puis que vous appréciez ces épisodes, je vous encourage à aller sur votre plateforme sur laquelle vous écoutez en ce moment ce podcast et puis de lui mettre une note, de laisser éventuellement un commentaire pour que je puisse savoir ce que vous pensez des épisodes et puis éventuellement ce que vous aimeriez avoir plus ou moins dans le podcast. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Voilà, donc on va parler du déroulement d'un test. Donc dans le dernier épisode, on a parlé de la relation avec les marques. Donc certaines marques m'envoient une montre ou certaines montres, eh bien je dois aller l'acheter pour la tester. Ça dépend un petit peu du contexte, mais en gros voilà, maintenant moi j'ai la montre ou l'appareil en question qui vient d'arriver chez moi, et puis on va voir comment se déroule entre le moment où le colis arrive, ou alors en tout cas l'appareil est là, et puis le moment où le test est mis en ligne, comment ça se déroule. Donc la première chose que je fais en général, je prends mon packaging et puis je prépare la petite table qui est dans mon bureau avec un petit peu d'éclairage et puis je prends mon appareil photo et je fais les photos du déballage de cet appareil. Alors ça a deux utilités principales. La première, c'est que les images, je les utilise pour la partie déballage du test que je publie sur le site. Et puis l'autre, eh bien, ça me permet d'avoir des images de tous les accessoires et de tout ce que contient en fait le packaging de la montre ou de l'appareil que je suis en train de tester. Et ça me permet de revenir dessus lorsque j'écris le test, si jamais j'ai besoin de savoir tel ou tel accessoire, comment est-ce qu'il était packagé. Et puis du coup, j'ai une trace au niveau des images qui me permettent de savoir. Et puis c'est également, lorsqu'on me prête la montre, de savoir comment est-ce que je vais remballer tout ça pour le renvoyer chez les marques pour que ce soit le plus précis possible au niveau de ce que je reçois et ce que je renvoie. Donc une fois que j'ai les photos du déballage, bah, je vais commencer par charger la montre et puis m'assurer que la batterie est suffisamment chargée pour commencer à manipuler. Et ensuite, si nécessaire, eh bien, je vais coupler ça à l'application mobile. Donc je vais vérifier que j'ai déjà l'application. Je vais choisir le compte dans lequel je vais enregistrer la montre ou l'appareil, parce que ça dépend un petit peu du contexte. Mais par exemple, chez Suunto, on peut enregistrer une seule montre par compte ou en tout cas par application mobile installée. Donc en gros, j'ai deux smartphones avec lesquels je fais mes tests, et puis dessus je peux mettre soit l'application avec le même compte que j'ai sur mon smartphone principal, celui que j'utilise tous les jours, ou alors je peux mettre l'application avec un autre compte. En général, j'ai deux comptes dans chaque écosystème et dans chaque plateforme. Pour un, celui que j'utilise personnellement pour faire mes tests, c'est quand même celui que j'utilise le plus souvent, mais j'ai un deuxième compte en général, et puis celui-là, je l'utilise si je dois, par exemple, coupler deux appareils de la même marque en même temps, ou que j'ai dépassé une limite, ou que j'ai besoin de comparer des données de montres qui sont dans deux plateformes différentes. Une fois que c'est couplé à l'environnement logiciel, eh bien là, je vais commencer à jouer un petit peu avec la montre ou avec l'appareil en question. Donc ça peut être un compteur cycliste, ça peut être un casque audio, ça peut être, je teste quand même différents types de choses sur le site, même si c'est quand même assez souvent des montres de sport. Donc je vais ouvrir, je vais aller dans les menus, je vais regarder les paramètres qui sont par défaut, ceux éventuellement que je veux changer pour le test, et puis voir un petit peu comment est structuré le menu, comment sont structurés les réglages des profils sportifs, les options diverses et variées dans les différents sous-menus, et puis éventuellement peut-être personnaliser un petit peu la montre si je compte l'utiliser un petit peu plus de temps que uniquement pour le test. Eh bien, je vais mettre des indicateurs que je veux, moi, pour mes entraînements, avoir sous les yeux. Et puis, je vais commencer par faire une ou deux sorties sportives avec cette montre ou cet appareil. Et puis, éventuellement, un autre à côté sur lequel je vais continuer à enregistrer mes données pour mon propre entraînement, juste pour voir comment ça fonctionne. Et puis, vérifier que tout fonctionne bien. Mais ça, c'est pas des sorties sur lesquelles je vais prendre des photos ou que je vais enregistrer des données. C'est vraiment juste pour valider que tout est OK. Une fois que ces deux ou trois sorties sont faites, eh bien là, on va commencer une période d'à peu près 2 semaines pendant lesquelles je vais faire toutes les sorties comparatives. Donc là, en fait, chaque sortie, chaque entraînement de sport que je vais faire, je vais le faire avec cette montre ou ce compteur vélo, par exemple. Et puis, je vais enregistrer toutes les données, donc GPS, altitude, éventuellement fréquence cardiaque et d'autres. Et puis, je vais utiliser une montre de référence, qui sera pas forcément la même tout le temps, mais qui utilisera une ceinture cardio, peut-être un capteur stride pour la mesure de la distance en course à pied, peut-être un capteur sur le vélo pour les mesures de distance, éventuellement si je fais du VTT ou en tout cas des activités où la mesure de distance peut être challengée sur le GPS. Et puis, tout ça, ça va me servir au comparatif de données que vous trouvez dans les tests. Alors en général, dans les tests, je mets entre 2 et 4 comparatifs pour le GPS, entre 2 et 3 pour l'altitude, entre 2 et 4 pour la fréquence cardiaque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque test, j'ai environ 8 à 10 comparatifs minimum que je réalise, plusieurs dans les mêmes disciplines. Et puis ensuite, je choisis ceux qui illustrent le mieux les conclusions que je veux amener sur le test en question, donc ce qui met le mieux en évidence le comportement général des capteurs. J'essaye absolument de pas biaiser le test, c'est-à-dire que si sur 7 activités sur 10 le capteur cardio a été bon, je vais clairement essayer de mettre en avant ce bon fonctionnement. Maintenant, s'il y en a une sur laquelle il y a quelque chose qui s'est mal passé, je vais essayer de comprendre, est-ce que c'est moi qui ai mal réglé quelque chose, est-ce que mon comparatif avec la ceinture est mauvais tout simplement parce que la ceinture a mal enregistré les données. Et puis, si je suis convaincu que tout était en ordre mais que le capteur a dysfonctionné à ce moment-là et que ça vaut la peine de le mettre en évidence, je vais le mettre dans le test. Si je pense qu'il y a trop de risques que ce soit une erreur de mesure et de comparaison, évidemment que je ne vais pas le mettre. L'objectif, ce n'est pas de mettre en évidence des choses fausses, c'est clairement d'aller le mieux possible renseigner sur le fonctionnement exact d'une montre. Après, un comparatif, on en parlera dans le prochain épisode de podcast, c'est toujours très subjectif, surtout sur la fréquence cardiaque, parce que c'est un échantillon de une seule personne, c'est-à-dire moi, qui fait le comparatif. C'est pas forcément représentatif exactement de comment ça marche en général. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode de Nakan Inside, comment je fais les comparatifs de données. Simplement là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un test, ben, je vais passer à peu près 2 semaines pendant lesquelles je vais accumuler des données avec la montre ou l'appareil, et puis je vais les comparer à d'autres données. Une fois que ces 2 semaines sont passées, là je vais commencer à coupler des accessoires, parce que pendant que je fais les comparatifs de données, évidemment que c'est que les capteurs de la montre qui vont entrer en ligne de compte. Et ensuite je vais faire des tests de fonctionnalités plus avancées. Je vais éventuellement coupler une ceinture de fréquence cardiaque, des capteurs pour la mesure de distance ou de cadence ou autre en course à pied, des capteurs de puissance à vélo, etc. Et puis faire des tests de fonctions plus avancées. Que ce soit pendant les 2 semaines de tests et de comparaison de données ou dans les semaines qui suivent où je vais faire des tests de fonctionnalités plus avancées, évidemment que j'essaie déjà d'accumuler beaucoup de photos et de vidéos sur l'appareil en question pour pouvoir ensuite commencer à illustrer le test en ligne et le test vidéo. Et puis, le test écrit commence au moment où je fais les photos de déballage. Je commence à prendre des notes ou à écrire carrément des paragraphes ou des chapitres du test au fur et à mesure que je teste les différents éléments. Donc, en gros, ça se découpe en 2 semaines de comparaison de données. Après, ça dépend aussi de la fréquence de mes entraînements. Par exemple, maintenant, au mois de novembre, je suis beaucoup moins en train de m'entraîner qu'en plein été quand j'ai des objectifs de triathlon ou de course à pied type marathon, et donc du coup ça prend un peu plus de temps pour faire ces tests là. Et puis il y a certaines fois il faut attendre aussi un peu plus longtemps Tout simplement parce que certains algorithmes nécessitent d'accumuler des données sur une période plus longue. C'est notamment le cas avec les montres, en particulier depuis qu'elles accumulent les données de variabilité de fréquence cardiaque. Et certaines montres mettent entre 1-2 semaines pour afficher des données pertinentes après avoir accumulé un certain nombre de mesures. Et donc du coup, ça prend des fois un peu plus de temps. Alors maintenant que ces données sont plus ou moins standardisées sur les montres, il y a une astuce, en tout cas qui est valable chez Coros et puis chez Garmin, c'est de porter une montre Garmin autre ou une montre Coros autre que j'ai déjà chez moi en avance quand je sais que je vais acheter ou recevoir une montre pour test, et puis de commencer à accumuler les données sur les semaines précédentes, et comme ça quand je reçois le nouveau modèle, je sais qu'elle va récupérer l'historique qu'il y a déjà dans mon compte Coros ou Garmin, et puis continuer directement avec ces données-là sur la montre. Ça me permet de gagner du temps sur un test. C'est pas forcément tricher sur le test, parce que les données, elles ont vraiment été accumulées à l'avance, et puis elles sont ensuite processées sur le nouveau modèle. Bien évidemment que je vais pas illustrer le test en ligne directement avec le premier jour les données de l'autre montre. Je vais attendre encore quelques jours, mais ça me permet des fois de gagner ces 2 semaines initiales où l'acquisition de données affiche rien sur la montre et il faut attendre pour avoir des données pertinentes qui s'affichent. Voilà, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Et puis, ensuite, je vais commencer à me concentrer vraiment sur la rédaction du test et puis à la structure de la vidéo que je veux réaliser sur le test, si je fais une vidéo en même temps. Et là, je vais choisir ce que je veux mettre en avant comme fonctionnalité, comme fonctionnement, et puis j'ai déjà une structure de base qui existe et que vous retrouvez dans quasiment tous les tests de fond en comble, que ce soit les compteurs cyclistes ou les montres sur le site. Mais là, je vais choisir si, par exemple, il y a quelque chose de particulier sur la cartographie ou sur les mesures physiologiques ou sur l'aide à l'entraînement. Et puis, je vais voir si je mets ça en avant dans le test. Et puis, développer tout ça, vérifier que j'ai bien les images qu'il me faut pour illustrer toutes les parties du test. Et puis, commencer à mettre en place vraiment tout le texte et puis la structure de ma vidéo. Et puis ensuite, une soirée, je vais passer plusieurs heures à vraiment faire la rédaction complète. Donc j'aurai déjà écrit beaucoup de petites parties du test, mais là je vais vraiment dérouler le texte complet du test. Et puis il me manquera quelques photos. La plupart des photos, ce sera des photos de widgets, de montres statiques, pas forcément de données à l'entraînement, parce que ça, j'aurai déjà une belle collection d'images pour illustrer ça, mais je vais quasiment finir le texte du test, et puis je vais réaliser 1 ou 2 séances de photos en intérieur, donc là, de nouveau sur la table dans mon bureau, et puis je vais prendre les photos de tout ce qui me manque dans le test, et enfin je vais tourner la vidéo. Donc là, j'aurai pris les points essentiels qui me semblent importants d'aborder dans la vidéo, et puis l'enregistrer. Et ensuite, pendant le montage de la vidéo, là aussi peut-être qu'il va me manquer, et d'ailleurs il m'en manque souvent, des images d'illustration, parce que il faut savoir que pour une vidéo qui dure 10 minutes, il faut vraiment beaucoup de petites parties vidéo tournées à l'extérieur et en intérieur pour avoir de quoi illustrer suffisamment la vidéo. Et puis, si nécessaire, eh bien, je vais encore accumuler les photos et les vidéos qui me manquent pour tout terminer. Et puis alors, une fois que le texte est terminé et puis que ma vidéo est montée, eh bien, je vais planifier tout ça et puis mettre en ligne le test de fond en comble et ainsi que la vidéo qui l'accompagne sur le site et la chaîne YouTube, et puis ensuite faire quelques petits posts sur les réseaux sociaux pour annoncer que tout ça c'est en ligne. Donc voilà comment se déroule globalement un test pour Nakan.ch. Donc la durée de tout ça, on l'a vu, hein, c'est à peu près 2 semaines pendant que j'accumule les données. Avant ça, il s'est passé 2-3 jours pour les photos de déballage, pour la prise en main, pour 1 ou 2 sorties entre guillemets à vide pour vérifier que tout est ok, puis que j'ai bien compris le fonctionnement global de l'appareil. Et après, il faut encore entre une, deux, trois semaines pour tester les fonctionnalités avancées en fonction de si je connais déjà bien le modèle de la montre, ou en tout cas bien le fonctionnement global. Maintenant, s'il y a une nouvelle montre Garmin qui arrive, je suis assez vite à l'aise dans les menus. Par contre, si je dois tester une nouvelle marque ou quelque chose de complètement nouveau, je vais prendre un petit peu plus de temps à découvrir où sont les fonctions, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, un test, c'est vraiment minimum de minimum trois semaines, si vraiment c'est un test à réaliser assez vite. Et puis maximum, ça peut prendre jusqu'à deux mois en fonction de ce que je veux mettre dans le test. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien évidemment que quand je reçois des appareils qui sont... que je les reçois avant qu'ils soient annoncés, j'aime bien avoir le test qui est prêt le jour de l'annonce. Si les marques me laissent un petit peu de temps, c'est-à-dire que je reçois la montre au grand minimum deux semaines avant la date, j'essaye d'avoir tout ça qui est prêt. Si c'est moins de deux semaines, c'est clair que c'est quasiment impossible d'avoir un test de fond en comble, ne serait-ce déjà que j'ai même pas le temps d'accumuler les données pour les comparatifs de données. Donc voilà, là c'est pas possible. Par contre, si j'ai le temps, je vais vraiment essayer de retenir la deadline. Mais une chose qui est sûre, c'est que je mettrai jamais un test dont je suis pas 100% satisfait au niveau du contenu en ligne. Et je préfère attendre quelques jours, éventuellement écrire vite un article de présentation générale de l'appareil pour avoir quelque chose le jour de la sortie, parce que je sais que vous êtes tous friands de donner dès que la montre ou l'appareil est annoncé. Mais par contre, je vais pas mettre en ligne un test bâclé pour juste avoir quelque chose le jour J. Donc j'essaie vraiment d'avoir quelque chose de qualitatif, et si je suis pas content, bah, je continue, et puis je mets en ligne que quand je suis assez satisfait. Il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur quand je mets en ligne les tests, mais les trois axes les plus importants, et pour moi c'est vraiment des lignes de conduite auxquelles je ne déroge pas, c'est le premier: ne parler que de choses que j'ai réellement testé. Et donc du coup, si vous voyez des images ou que vous voyez des commentaires dans les tests sur des fonctions ou des écrans de données ou ce genre de choses, c'est que j'ai testé ces fonctionnalités. Alors c'est pas forcément des tests qui ont duré sur 6 séances pendant 3 semaines, mais pendant au moins une ou deux séances, j'ai vraiment poussé l'utilisation de la fonctionnalité à fond. Après, c'est sûr que certaines fonctionnalités, comme les entraînements par intervalle sur les montres Garmin, les écrans, ils changent un petit peu entre les modèles, mais le fonctionnement de base, il est toujours un peu identique. Donc là, je vais mettre un entraînement par intervalle sur ma montre, je vais faire une sortie en course à pied ou à vélo avec, et puis j'aurai mes images et j'aurai vu comment ça fonctionne sur ce modèle-là. Je vais pas faire non plus 3 ou 4 séances avec l'appareil photo et autres pour tester ça, parce que normalement, il n'y a pas de surprise. Si par contre, pendant la sortie pendant laquelle je le teste, je vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou des surprises, alors là, je vais peut-être investiguer un petit peu plus loin avant de mettre mes conclusions en ligne. Donc voilà, première chose, ne parler que de choses que j'ai réellement testées. Il y a des exceptions, mais dans ce cas-là, je le mets clairement en avant. C'est par exemple les fonctionnalités de plongée sur la Garmin Fenix 8. Si on prend un exemple récent, j'ai pas fait de plongée avec cette montre, je fais assez rarement de la plongée avec bouteille, et donc du coup, c'était pas l'occasion de le faire pour la sortie de la Fenix 8. J'ai mis un paragraphe sur ces fonctionnalités-là, mais j'ai très explicitement dit que c'était une analyse sur la base des données techniques de la montre et ce qu'on avait reçu comme information sur la présentation de la Fenix 8, et pas sur une utilisation personnelle en plongée. Le deuxième point, c'est avoir des comparatifs de données fiables. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, on verra ça en détail dans le prochain épisode d'Inside, mais c'est vraiment assez important pour moi. Si je mets un comparatif de données GPS, fréquence cardiaque, altitude, ça doit avoir été testé avec une certaine cohérence et une certaine rigueur, sinon c'est des données aléatoires qu'on compare, et ça va pas du tout. C'est pas représentatif, c'est pas explicite. Et puis enfin, c'est d'avoir un test qui est illustré de manière acceptable. On voit des tests sur internet avec des photos qui sont pas très jolies, qui sont pas représentative de ce qu'on voit réellement quand on utilise la montre. Et donc du coup, moi j'essaie vraiment d'avoir des images qui sont réelles, donc pas forcément des images qui sont fournies par Garmin qui ont été prises en studio. C'est des photos que je prends moi un maximum sur mes tests, mais aussi des photos de bonne qualité, parce que je trouve que c'est quand même plus joli d'avoir des photos avec une belle luminosité ou alors en tout cas un éclairage correct, et puis pas des reflets de partout sur les verres, parce que le reflet c'est quelque chose qui est très très sensible quand on prend la photo, mais qu'on voit beaucoup moins dans la vraie vie quand on regarde avec son œil humain le verre de sa montre, et donc du coup ça donne pas un rendu réel de ce qu'on voit sur la montre en vrai. Et donc c'est très difficile d'exprimer exactement ce qu'on voit en vrai, mais j'essaye de le faire le mieux possible. Une fois que tout ça c'est bon, j'ai validé mes tests, j'ai validé les comparatifs de données, j'ai des images acceptables à mettre en ligne, mais je mets mon test en ligne, et puis je mets la vidéo si on a une. Et puis le test, il est pas forcément 100% terminé. Parfois, je peux ne pas avoir testé certaines fonctionnalités parce que c'est pas la bonne saison, ou parce que le contexte n'était pas bon, ou parce que la fonctionnalité est pas terminée. Et je reviens sur des tests. Alors c'est vrai que vu que je fais ça en dehors de mon activité professionnelle et sur mon temps libre, il y a tout le temps des nouveaux tests à faire. C'est difficile de trouver le temps de revenir encore sur des tests existants. Mais si vraiment il y a des choses importantes à faire à ce niveau-là, eh bien je le fais. Et puis je reviens sur des tests précédent. Et bien évidemment qu'on se remet toujours un petit peu en question quand on fait ce genre de choses, et on se pose la question de savoir, mais comment est-ce que je peux encore améliorer cette partie test sur le site à l'avenir? Et pour répondre à cette question, j'ai déjà quelques axes de travail pour les prochains tests et les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc c'était déjà un travail qui a commencé gentiment en 2024, mais que je vais vraiment amplifier en 2025, c'est d'augmenter la partie vidéo, pour laquelle je vais essayer de mettre plus de contenu vidéo en ligne. Ça, c'est un des premiers aspects. Et puis d'avoir des vidéos plus qualitatives. Ce que je fais pour l'instant sur YouTube, c'est ce que j'arrive à faire maintenant un petit peu en trouvant le temps à côté des tests, c'est d'augmenter un petit peu les bonnes pratiques et puis des bonnes images à mettre en ligne, donc augmenter la qualité globale des vidéos et puis éventuellement un petit peu la quantité, mais l'objectif c'est surtout d'augmenter la qualité des vidéos, et puis de continuer encore plus à explorer le détail des fonctionnalités. Vous avez vu depuis quelques temps sur Nakan.ch que sur les tests, je passe en revue assez rapidement certaines fonctionnalités, mais il y a des articles dédiés qui s'appellent « Tout savoir sur la fonctionnalité, blabla ». Et là, je vais augmenter le nombre de ces articles pour faire des tests plus complets, mais aussi ne pas devoir revenir à chaque fois sur certaines fonctionnalités qui sont maintenant présentes sur quasiment toutes les montres, en tout cas chez différentes marques. Par exemple, chez Garmin, j'ai pas envie d'écrire un paragraphe complet à chaque fois sur le body batterie parce qu'il est présent sur 100% des montres de Garmin. C'est d'avoir un lien vers l'article « Tout savoir sur le body batterie » de Garmin, et puis toutes les informations, éventuellement mettre à jour continuellement ces articles-là, mais ne plus avoir à écrire à chaque fois des articles complets avec... revenir à chaque fois sur les fonctionnalités qui sont communes à toutes les montres. Et ça va continuer en 2025. Je vais essayer de mettre l'accent aussi sur ce type d'article qui m'aide à gagner du temps sur le déroulement des tests de fond en comble, et puis qui vous donne à vous plus d'informations quand une nouvelle montre arrive, parce que le body battery d'une Fenix 8, il a rien de très différent du body battery d'une Fenix 7. C'est inutile pour moi de réécrire l'intégralité de tout ça, c'est inutile pour vous de le relire intégralement si vous savez ce que c'est body battery, donc là le but c'est d'aller au plus efficace. Donc voilà comment se déroule un test sur Nakan.ch, j'espère que j'aurai été complet et que j'aurai répondu aux éventuelles questions que vous vous posiez là-dessus. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions et puis que vous avez d'autres points sur la face cachée de Nakan.ch ou d'autres questions que vous vous posez, eh bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de l'article qui concerne cet épisode sur le site ou sur les plateformes de podcast. Mettez des étoiles aussi à cet épisode ou au podcast sur les plateformes si vous l'appréciez. Moi, ça m'aide à faire connaître aussi le podcast Transition. Je vous retrouve exceptionnellement la semaine prochaine. On augmente un tout petit peu la cadence parce que ces derniers temps, j'ai mis moins d'épisodes en ligne que ce qui était prévu. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast Transition. Je vous souhaite une très belle semaine, de très bons entraînements. Profitez d'être à l'extérieur et de vous entraîner. À la semaine prochaine.